Bienvenue dans ce numéro du magazine régional et aujourd'hui nous allons parler de l'AMTA. La première question, Jacques Puech, vous êtes conseiller artistique à l'AMTA. Qu'est-ce que l'AMTA ?
Donc c'est l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. C'est une association qui a été créée en 1985 pour la promotion et la diffusion des musiques et danses traditionnelles. C'est une association qui est rattachée à la FAMDT, qui est la Fédération des associations de musique et danses traditionnelles. Les axes défendus en fait par l'AMTA dès le départ sont la mise en réseau des acteurs des musiques et danses traditionnelles, la diffusion, la recherche, la formation, la communication, la production et un soutien aux artistes en général. Aujourd'hui, l'AMTA, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure qui emploie 9 personnes quand même, avec un travail très important qui est fait sur la notion de patrimoine culturel immatériel. On met là-dedans, on va dire, tout ce qui est musique, danse, tous les savoir-faire, les savoir-être, enfin la culture des gens des pays, en fait, des territoires. Donc nous, on est dans une optique de valoriser ce patrimoine culturel immatériel et d'en faire un agent de développement des territoires sur la région.
Comment on définit une musique et une danse traditionnelle?
Il y a un lien au territoire, en fait, d'une musique particulière, avec ses codes particuliers, ses manières de faire, on va dire. La fonctionnalité de ces musiques-là aussi, on est beaucoup sur des musiques à danser, ou à l'époque, en tout cas, sur des musiques de quête, etc., donc des musiques rituelles, on va dire. On peut aussi, on interroge la musique d'une personne en particulier. Au-delà d'un territoire, en fait, c'est chaque personne qui fait sa musique, etc. Voilà, donc c'est la musique des personnes sur un territoire.
Quand on pense à musique traditionnelle, on pense forcément à histoire. Est-ce que l'histoire est vraiment, j'allais dire, en corrélation avec la musique traditionnelle, ou est-ce que on peut parler de musique traditionnelle pour des musiques, j'allais dire, plus actuelles ou jouées de façon plus actuelle ?
Alors, les musiques traditionnelles aujourd'hui sont intégrées dans les musiques actuelles. Voilà. Or, nous, notre matériau, entre guillemets, de base de création, ce sont des collectes, en fait, qui ont été faites dans les années 70-80, pour la plupart, d'autres qui sont plus anciennes. Donc voilà, c'est un matériau qu'on utilise et qu'on transforme, qu'on recrée à partir de ce matériel-là, pour pouvoir faire des musiques complètement actuelles, avec des instruments actuels aussi. On n'utilise pas que les instruments traditionnels, dits traditionnels, on va dire. C'est quelque chose qui est en effervescence complète, en fait, et dans l'actualité, on va dire.
Est-ce qu'il y a une véritable différence, puisque vous parliez territoire, est-ce que dans ce grand territoire de l'Auvergne, il y a une différence de musique traditionnelle ? Est-ce qu'il y a des sonorités, des timbres traditionnels différents, si on est dans le Cantal, Haute-Loire, Allier ou Puy-de-Dôme ?
On pourrait, si on voulait découper la région administrative en fait en plusieurs pays et plusieurs foyers, on va dire, culturel avec des manières de faire propres. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque musicien a sa propre manière de faire. Donc effectivement, la musique qu'il y a dans un coin du Cantal ne sera pas la même que, par exemple, au sud, au Connord. Ce ne sera pas tout à fait la même. Il y a quand même un aspect général qui les regroupe. Et en même temps, plus on creuse, plus on trouve des spécificités par musicien et même par... à chaque fois qu'il le joue, il ne le joue pas pareil. Donc c'est encore des spécificités. Donc il y a un grand ensemble qu'on appelle les musiques traditionnelles, qui après peut se décliner en fait.
Et alors le rôle de l'AMTA dans ce cas-là, il est quoi ? Il est de faire diffuser ces musiques traditionnelles, de ne pas les oublier. Quel est le leitmotiv, si je puis dire, ou l'essence de l'AMTA ?
Le rôle de l'AMTA là-dedans est multiple. C'est qu'on a un rôle d'archivage, en fait, de numérisation des données, des documents, qu'ils soient sonores, qu'ils soient vidéo, qu'ils soient iconographiques. Donc on les numérise, on les documente. Il y a un travail qui est fait avec les archives départementales, notamment du Puy-de-Dôme, avec les archives départementales de la Haute-Loire. On est un pôle ressources de la BNF aussi. Après, il y a un travail de publication qui est fait de mise en ligne, en tout cas, de ces archives sonores pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Après, le rôle de l'AMTA, c'est aussi de communiquer avec les acteurs, les musiciens locaux, en fait, et donc d'aider à la diffusion de ces musiciens-là, d'aider à la production, etc.
Alors, soyons un petit peu chauvin. L'Auvergne, en termes général, est riche au niveau de musique et de danse traditionnelle ?
Alors, l'Auvergne est très riche, mais j'ai envie de dire, comme beaucoup d'autres régions, la grande chance qu'on a eue en Auvergne, c'est que ce patrimoine-là ne s'est pas perdu, puisqu'il a été enregistré, il a été collecté, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a des traces et on a un matériau, en fait, pour travailler aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. On a énormément de documents à nos dispositions aujourd'hui en Auvergne pour pouvoir travailler et recréer et continuer à faire avancer cette histoire-là.
Raphaël Morel, vous êtes président du CDMDT du Puy-de-Dôme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est cette association ? Et avec vous, je voudrais que l'on parle justement de la force et de la pertinence du réseau des musiques traditionnelles en Auvergne. Alors, tout d'abord, la première question, cette association, vous pouvez nous la présenter, votre association ?
Alors, je vais essayer de le faire rapidement. Le Centre départemental des musiques et des danses traditionnelles du Puy-de-Dôme, donc CDMDT, Les Braillots, et on est une association qui est née en 1976 précisément. On a un lieu qui s'appelle le Gamounet, qui est à Saint-Bonnet-près-Rion, donc juste à côté de Rion, une dizaine de kilomètres. Dans ce lieu, on a énormément d'activités depuis une trentaine d'années, dont, pour n'en citer que quelques-unes, un festival annuel de 5 ou 6 jours, une programmation annuelle avec une vingtaine d'événements, une école de musique avec 5 à 7 formateurs réguliers qui donnent des cours de musique à des enfants, à des adultes, et tout un tas d'autres activités, des repas, de l'hébergement, un gîte qui est en développement. Voilà, donc tout ça, ce sont les activités des Braillots dans les murs, et nous avons également des activités en dehors de nos murs, et c'est là que prend sens la dénomination de centre départemental. On a un réseau qui s'appelle Tradamuse, qui a vocation à faire des demi-journées de formation à des instituteurs pour les former sur les musiques traditionnelles, pour qu'on puisse, ils puissent transmettre ces éléments aux enfants qu'ils ont dans leurs écoles. C'est un réseau assez conséquent, puisqu'on touche à peu près 12 000 personnes par an, enfants, adultes, et quand je dis adultes, c'est parents et professeurs, puisqu'il y a des sortes de restitutions. Les enfants, en ayant appris à danser et en ayant appris à chanter, on ne les laisse pas comme ça sans jamais leur faire pratiquer. On leur propose des petits bals d'enfants où nous, on joue la musique, les Braillots, l'association, et les enfants dansent avec leurs professeurs, etc. Et les parents sont bien sûr invités. Donc au total, ça fait 12 000 personnes.
Alors Raphaël Morel, ça c'est votre association. Très bien, merci de l'avoir présenté. Mais alors, revenons aux musiques traditionnelles en Auvergne. Je voudrais qu'on s'intéresse à la force. Est-ce qu'il y a péril actuellement en la demeure en ce qui concerne la musique traditionnelle, ou est-ce qu'il y a encore, j'allais dire, un réseau assez vivace et vivant pour la faire vivre, cette musique ?
Sur la notion de réseau, je pense que c'est là où réside l'essentiel de la question. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau ? C'est un ensemble d'organisations, etc., qui vont avoir des liens entre eux. C'est exactement ça qu'on a dans nos musiques traditionnelles, il y a un lien entre tout le monde. Alors, on a parlé de l'AMTA, l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne, on a parlé de la FAMDT, Fédération des associations des musiques et de danse traditionnelles, donc ça c'est une instance, on va dire, nationale. Moi, je suis président d'un centre départemental, il y en a 4 en Auvergne. En plus du centre des Braillots, il y a des dizaines d'associations qui font vivre au quotidien ces musiques. Et dans ce réseau, il y a quand même des gens qu'il ne faut pas oublier, c'est tous les habitants de ce territoire. Parce que cette musique, tout ce qu'on fait, ça leur appartient. C'est leur patrimoine, c'est leur territoire. Donc tout ce qu'on fait, c'est à destination de tous ceux qui habitent ici et qui ont envie de découvrir ce territoire ou qui le découvrent de manière indirecte. La force du réseau, elle est là, c'est-à-dire qu'il est destiné à tous. Est-ce que le réseau est en péril ? Non. Est-ce que les musiques traditionnelles sont en péril ? Je suis pas sûr, elles ont toujours existé, donc elles existeront toujours, à partir du moment où il y a des gens, comme nous, mais comme beaucoup d'autres, pour continuer à faire passer ces musiques, à les transmettre, et tout ce qui va avec, parce qu'il n'y a pas que les musiques. Quand on parle de patrimoine culturel immatériel, il y a énormément de choses. Il y a des savoir-faire, il y a des notions d'architecture. Alors on va dire, après, l'architecture bâtie, c'est du patrimoine matériel. Mais toutes les savoir-faire, toutes les techniques qui sont mises en œuvre pour fabriquer ces bâtiments, etc. Il y a tout un tas de choses qui rentrent là-dedans. Je ne pense pas que tout ça soit en péril à partir du moment où on a des structures, je ne vais pas dire des institutions, mais en tout cas des structures pour non seulement conserver ce patrimoine, mais le diffuser et le mettre à la disposition de tous. Et c'est là, à mon avis, où le réseau trouve toute sa pertinence et sa force.
Vous parliez de diffusion. On en parlera avec Mélanie Mico et André Rico, le directeur de l'AMTA. Mais c'est bien beau d'avoir un réseau, mais si c'est le même réseau qui écoute ces musiques traditionnelles, ça ne se diffuse pas. Comment faites-vous actuellement pour que les musiques traditionnelles soient écoutées par tout un chacun ?
Il y a deux réponses. La première, elle est dans la vie associative des membres de ce réseau, on va dire. Et la deuxième, elle est dans l'institutionnalisation dont on bénéficie depuis essentiellement la création de l'AMTA en 1985. D'abord, c'est la vie des associations. Je vous ai dit tout à l'heure, on touche 12 000 personnes par an juste dans le réseau Tradamuse. Et ça, c'est hors diffusion, hors saison culturelle. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des Braillots, on a chaque mois des balles où on accueille 300 à 400 personnes tous les mois qui viennent danser. Mais ça, c'est juste du bal. Après, on a de la diffusion, Mélanie vous en parlera tout à l'heure, avec des disques qui sont vendus aussi en FNAC. Ils ne sont pas vendus que dans les locaux de l'AMTA à Rion, Auvergne. Ils sont vendus partout en France. Ensuite, il y a des groupes de musique. C'est-à-dire que là, on parle des associations, mais au sein des associations, il y a des formations musicales. Chez les Braillots, on a fait le compte il n'y a pas longtemps, on est 22 formations musicales différentes. Ces formations, elles jouent chez nous, mais elles jouent ailleurs. On a un rayonnement départemental, régional, national, voire international. Les musiques traditionnelles touchent. Si vous regardez la programmation clermontoise, de plus en plus, vous avez des groupes de musique trad qui viennent jouer. Qui sont sollicités pour ça. Après, justement, c'est là où je vais faire le lien, on a une institutionnalisation qui est, j'ai envie de dire, croissante. Pourquoi ? Parce que, justement, on a réussi à se structurer grâce à l'AMTA, grâce à la création des centres départementaux, pour avoir une visibilité par rapport aux élus et à ceux qui sont là pour diriger les politiques de territoire. Et c'est là où l'AMTA a un lien fondamental que les associations ne peuvent pas forcément faire, ne peuvent pas forcément jouer en dehors de leurs activités musicales, etc. C'est d'aller voir les élus et de leur présenter ce qu'on fait. Parce qu'il y a un enjeu de développement du territoire qui est fondamental. C'est notre philosophie depuis le départ et aujourd'hui elle commence à être connue dans un contexte économique qui est pourtant beaucoup plus difficile pour la culture que dans les années 80. On a une reconnaissance de plus en plus croissante. On travaille avec les communes, avec les communautés de communes, avec le conseil général, avec le conseil régional, avec l'État au niveau de la fédération, mais en Auvergne, on est reconnu et on est sollicité de manière quasiment quotidienne maintenant dans le cadre de nos activités.
Monsieur Ricrot, vous êtes le directeur de l'AMTA. Je voudrais que l'on parle justement des publications de l'AMTA. En quoi il est important pour vous d'avoir ces publications et de diffuser vos connaissances et, j'allais dire, votre savoir-faire ?
Alors d'abord, il y a plusieurs types de publications. Il y a des publications à caractère ethnographique, on va dire, et puis toutes les publications qui sont l'actualité des musiques traditionnelles sur le territoire. Pour revenir à la première catégorie, c'est important que les sources puissent être diffusées et rien de mieux que le disque peut le faire. C'est une forme d'oralité, puisqu'il n'y a pas de transmission par le filtre d'un autre interprète. Et donc, l'ensemble des musiciens et des gens qui veulent se former à ces pratiques artistiques peuvent avoir accès à ces matériaux de base. Et les matériaux de base, c'est fondamental parce que quand on veut construire une maison, sans matériaux de base, on est quand même relativement embêté. Et construire une maison aujourd'hui contemporaine, c'est quand même plus intéressant d'utiliser les matériaux qui sont sur place plutôt que d'aller les chercher dans un endroit qui n'a pas beaucoup de sens. Et lorsque ces matériaux seront assemblés, vont faire que les bâtiments ne vont pas être complètement inscrits dans un paysage particulier. Pour revenir sur la deuxième catégorie, qui sont les publications de groupes de musique actuelle, dans le domaine des musiques traditionnelles, c'est important de produire ce genre de disques, entre autres, parce que, un, de passer par la case enregistrement, ça oblige à faire évoluer quelque chose qui a une dimension éphémère lorsqu'on pratique ces musiques en bal ou en concert, et lorsqu'on le fixe sur un disque, c'est une exigence d'un autre ordre, et que le disque n'est pas la même chose que la dimension spectacle vivant. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un groupe veut enregistrer, il est dans l'obligation, même sans le savoir, de progresser. Donc ça fait évoluer l'ensemble des pratiques instrumentales et artistiques. Deux, c'est aussi pour les autres groupes, qui sont au nombre de 300 à peu près sur la région Auvergne, ça permet de pouvoir écouter ce que font les voisins, parce qu'on n'est pas obligatoirement sur l'ensemble des moments de spectacle ou de bal pour entendre l'intégralité des pratiques artistiques contemporaines.
Et alors, est-ce que vous avez d'autres publications, mais cette fois plus bibliographiques? Est-ce que vous êtes éditeur d'ouvrages sur eh bien, des métiers, comme le disait Raphaël Morel, sur des métiers dits traditionnels?
Donc là, il ne faut pas qu'il y ait de confusion par rapport à ce que sont les publications sur les métiers dits traditionnels. On n'est pas une institution qui travaille sur une forme de pensée passéiste, parce que ça, c'est pas intéressant du tout, au contraire. Je pense que c'est une gêne pour l'évolution et le développement du territoire d'avoir uniquement comme dominante de publication des choses qui touchent à une nostalgie d'un temps révolu. Ça, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de ne pas perdre des savoir-faire ou des savoir-être qui sont nécessaires pour pouvoir gagner du temps pour inventer l'avenir. Ça, c'est fondamental. Alors, en termes de publication écrite, si c'est là l'objet de votre question, donc on a publié là aussi deux types d'ouvrages qui sont, un, des témoignages de musiciens qui écrivent leur propre histoire, ce qui est relativement rare, parce qu'on en a quasiment trois sur le territoire auvergnat, alors qu'il n'y en a pas cinq sur l'ensemble du territoire français. C'est-à-dire des musiciens nés au début du XXe, par exemple, et qui sont en mesure de pouvoir écrire leur propre histoire, ou à la fin du XIXe, comme Martin Kayla, par exemple. Excessivement rare. Et d'autre part, il y a des publications qui ont un caractère ethnographique ou des publications qui ont un caractère analytique, voire littéraire.
J'ai posé cette question à Jacques Puech tout à l'heure au niveau de la région Auvergne. Je voudrais, monsieur le directeur, que l'on parle des départements. Est-ce que le département du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme ou celui de l'Allier, eh bien, est-ce qu'il y en a un qui est plus riche que les autres par rapport à ces musiques traditionnelles actuellement? Est-ce que le Cantal ou la Haute-Loire est plus riche que l'Allier?
Non, il n'y a pas de différence en fait. C'est-à-dire que je pense que on peut trouver éventuellement plus de choses dans certains endroits, mais la richesse en tant que telle, le mot ne convient pas. C'est pas en termes patrimonial au sens de richesse matérielle. Je pense que c'est une richesse immatérielle et celle-là, elle est partagée et partageable par tous. Et elle est équivalente, dès l'instant qu'il y a des individus sur un territoire, il y a cette forme de richesse immatérielle et il y a une équivalence d'une certaine manière. Parce qu'habiter quelque espace que ce soit, c'est fabriquer cette richesse de fait.
Mélanie Micot, avec vous, nous allons parler des artistes, nous allons parler de la diffusion et nous allons parler de toutes les publications qu'il y a ici à l'AMTA. Alors tout d'abord, une question sur les artistes. Est-ce que il y a beaucoup d'artistes en Auvergne qui font cette musique et cette danse traditionnelle?
Oui, il y a énormément d'artistes un petit peu partout en Auvergne, qui pratiquent les musiques traditionnelles et qui enregistrent donc des productions, des disques de musique actuelle basée donc sur des musiques traditionnelles. Il y en a, je ne sais pas du tout combien en Auvergne, mais il y en a vraiment un nombre important, en Auvergne et en France d'ailleurs. Et voilà.
Combien de disques à peu près avez-vous, vous, à l'AMTA, sur ces musiques traditionnelles?
Alors, moi, personnellement, en fait, je travaille plus pour une structure qui s'appelle Auvergne Diffusion, qui distribue donc la musique traditionnelle et de la musique d'Auvergne. Dans le catalogue d'Auvergne Diffusion, nous avons 500 disques de musique traditionnelle et autres. Et donc, c'est de la musique traditionnelle qui n'est pas que d'Auvergne. Voilà.
C'est vraiment national.
Tout à fait, national, international même, puisque nous avons de la musique traditionnelle d'Irlande ou de Russie, des Balkans. Enfin, c'est vraiment très varié comme catalogue.
Alors, je posais la question tout à l'heure par rapport à la diffusion. Est-ce qu'il est facile de faire la diffusion de ces musiques ou est-ce qu'au contraire, c'est encore dans un réseau très particulier avec, des amateurs, ou est-ce qu'au contraire, de plus en plus de personnes s'intéressent à ce savoir-faire et à ces musiques?
Alors, la diffusion, elle est relativement facile puisque nous avons tout un réseau de commercial vraiment en Auvergne, même en France et à l'étranger, puisque nous travaillons sur Internet. Et donc, du coup, on peut facilement voir que le réseau de vente initial a vraiment été ouvert, notamment grâce au travail de l'AMTA, notamment grâce au travail du réseau. Et les publications maintenant sont vraiment diffusées, pas que dans le réseau de base des musiques traditionnelles. Notamment donc avec le livre que l'AMTA vient de sortir, qui est commandé partout en Auvergne par des libraires qui n'ont rien à voir, je dirais, à la base avec les musiques traditionnelles.
Donc en fait, Internet, en fait, les musiques traditionnelles, grâce à Internet, on arrive à surfer et à trouver ce que l'on veut.
Très facilement, grâce à Internet, mais encore une fois, sur le terrain, puisqu'en Auvergne Diffusion travaille avec tout un réseau de commerçants. Et donc, si les commerçants proposent à la vente au public le plus large possible des productions actuelles de musique traditionnelle.
Pour vous, les musiques traditionnelles, en quoi c'est important et en quoi la diffusion et, j'allais dire, la préservation de ces musiques traditionnelles est important?
Alors, les musiques traditionnelles sont très importantes, comme les trois autres personnes que vous avez interviewées l'ont expliqué. C'est une base fondamentale pour pouvoir évoluer dans la modernité. Et ces musiques sont tout à fait adaptées et modernes, puisque on trouve des airs traditionnels rejoués et réarrangés par des musiciens, des jeunes comme des un peu moins jeunes, de façon contemporaine. Et c'est une musique qui est fondamentale et qui est vraiment très vivante. Moi, je peux le voir au quotidien. Les gens visitent donc le site internet d'Auvergne Diffusion. C'est la fréquentation est énorme. Et des personnes de Paris, des personnes du sud de la France, comme des personnes à l'étranger, sont sans cesse en quête de ces musiques traditionnelles et notamment des nouveaux disques qui sont édités chaque année par les différents labels en France.
Les jeunes s'intéressent de plus en plus à ce phénomène de musique traditionnelle. Vous en parliez, Raphaël Morel, avec justement les bals. Est-ce que ces bals sont, investis par la génération des 50, 60 ans, ou est-ce que vous voyez des jeunes qui s'y intéressent pour garder ce savoir-faire et ce patrimoine?
Moi, des personnes de 50, 60 ans, j'en vois de moins en moins dans le milieu des musiques traditionnelles. Si, autour de cette table, moi-même, j'ai 23 ans. On est trois à avoir moins de 30 ans. Bon, il y a une exception notable.
31 ans.
Voilà, il a 31 ans, le monsieur André Ricro, le directeur. Non, voilà. Autour de cette table, on est trois à avoir moins de 30 ans. On n'est pas tout seul. Si vous allez, je vais encore parler de chez moi, mais c'est normal, c'est dans le centre départemental des Braillots. On a une génération de jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont été formés par des un petit peu plus anciens qui nous ont transmis ce qu'ils savaient. Et nous-mêmes, on est en train de faire exactement le même travail avec ceux qui ont 5 à 10 ans de moins que nous. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont faire exactement la même chose pour ceux qui arrivent derrière. Après, bon, ça c'est la question interne des acteurs, mais dans la diffusion, on touche tout le monde en fait. C'est une des caractéristiques de ce qu'on propose, c'est que c'est totalement intergénérationnel. Chacun y trouve son compte au final. Si vous allez dans une boîte de nuit, c'est vrai que vous allez rarement voir des personnes de plus de 50 ans parce que la musique leur correspond pas du tout, ça leur plaît pas. Nous, notre musique, elle parle à tout le monde. Donc des jeunes, oui, il y en a énormément. La dernière fois qu'on a fait un bal chez les Braillots, donc c'était le mois dernier, Il y avait deux lycéens qui étaient venus fêter leurs 16 ans. Il y a 40 lycéens qui sont arrivés, une classe et demie à peu près, qui sont arrivés pour fêter l'anniversaire. Mais bon, on les a remarqués quand même parce que ça se voit, un groupe de 40. Mais c'est pas les seuls. Il y a énormément de jeunes qui viennent apprendre à danser, tout simplement parce que ça leur parle. Voilà. Et à Clermont, il y a le même travail qui est fait par une association qui s'appelle Ballo Centre et qui organise des stages assez réguliers. Alors, moins réguliers que chez les Braillots, hein, c'est 2 à 3 fois par an, mais avec, en partenariat avec le SUC, le service universitaire pour la culture. Et voilà, donc qui rassemble également de nombreux étudiants qui viennent s'initier à ces musiques et en général qui sont très rapidement convertis à la cause.